belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous la propose avec un philosophe. Un philosophe qui n'hésite pas à intervenir dans de nombreux champs philosophiques et épistémologiques. Bonjour Salim Mokadem.
Bonjour.
Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et je voudrais d'abord vous entendre sur qu'est-ce que c'est pour vous, pour Salim Mokadem, une belle rencontre.
Une belle rencontre, c'est d'abord un croisement d'événements circonstanciés, un carrefour de hasard, dirait-on, mais... Quand on est philosophe, on pense que le hasard, c'est un entrecroisement de séries causales, comme le disait un fameux sous-préfet mathématicien philosophe Cournot. C'est d'abord ce qui nous éveille à nous-mêmes, ce qui nous fait apparaître une altérité en nous-mêmes, mais incarnée dans un autre. Ce qui, pour le dire très rapidement et synthétiquement, une belle rencontre, c'est la rencontre qu'on fait de l'autre en soi et de l'autre à l'extérieur de soi, dans ce monde. Donc c'est pratiquement une incarnation qui prend la forme d'un, on dirait de manière populaire, un miracle. Avant, on disait une théophanie, mais ça ouvre le quotidien à quelque chose d'autre. Donc toute rencontre, véritable rencontre, est poétique.
Vous avez la chance d'en faire beaucoup, des rencontres ?
Dans mes lectures, plus que dans la réalité. Mais si je suis authentiquement méditatif et sérieux, je dirais que la vie est une rencontre permanente, perpétuelle, continue, exigeante et authentique. Dans la mesure où un regard perspicace et lucide, et je rappelle ce vers de René Char, la blessure et la lucidité est la blessure qui se rapproche le plus du soleil. Lorsqu'on est lucide, on est ouvert à l'apparition des choses et leur côté extraordinaire, qu'on a tendance à gommer par l'habitude, peut-être leur enfermement égocentrique, les soucis de la vie de tous les jours. Mais si l'on se déprend, si on se départit, si on fait un pas de côté, si on pense contre soi-même, on peut voir le caractère extraordinaire, non conforme des événements qui composent le tissu de la réalité, la plus prosaïque.
Dans l'intitulé de l'émission, qu'une rencontre peut changer le cours d'une vie. C'est intéressant ce que vous avez dit, parce que ça peut être aussi une rencontre, bien sûr, dans la littérature. Hein. Est-ce qu'il y a une rencontre qui, je ne sais pas, 12 ans, 15 ans, 16 ans, évidemment, on ne peut pas ne pas faire référence à Camus qui parle tellement de son prof, hein, de son instituteur, puisqu'il en fait même hommage pendant le discours au Nobel, qui a changé le cours de sa vie. Il y a comme ça une rencontre qui a changé le cours de votre vie ?
J'en ai beaucoup, mais disons que je vais essayer d'être... De rentrer dans
mais s'il n'y en avait qu'une, c'est difficile ce que je vous demande comme exercice.
Si on n'avait qu'une, je serais puisque vous parlez de Camus, je serais obligé d'être fidèle à Camus quand il disait « je préférerais toujours ma mère à la justice », je vous dirais le sourire de ma mère, sa tendresse et son intelligence infinie, qui m'a apporté énormément. Et puis, certainement... Des grands textes, je veux dire la découverte de Rimbaud et de Platon, et puis aussi la rencontre avec Michel Foucault dans ces deux dernières années de cours au Collège de France, m'ont apporté une vision sur le monde et un regard instruit, bienveillant et qui me donnait le symbole de ce que pouvait être une vie réussie, possible dans les conditions de l'existence qui sont les nôtres.
C'est intéressant. Et alors, tout de suite, on part fort, là, je trouve. C'est bien. On va d'abord parler un petit peu de vous. Donc, vous êtes professeur agrégé de philosophie. Vous enseignez à l'université l'art dialectique, de bien savoir pour vivre bien. Alors, ça me semble essentiel, mais est-ce que vous pouvez, et c'est ma première question, en quoi l'art dialectique de bien savoir pour vivre bien les mots se suffisent à eux-mêmes, mais si vous pouvez... nous en dire un peu plus sur
oui,
ça,
alors
justement.
Il y a une formulation ironique, à plusieurs étages interprétatifs. Ça veut dire tout simplement qu'un professeur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui transmet des connaissances, c'est-à-dire que ChatGPT peut le faire, les intelligences artificielles peuvent le faire, les logiciels peuvent le faire, les didacticiels aussi. C'est quelqu'un qui transmet aussi des savoirs, c'est-à-dire qui incarne en première personne, vous parliez de rencontre tout à l'heure, la rencontre qu'une existence a avec des savoirs sous la forme d'une interrogation et de problématisation qui lui sont spécifiques. Autrement dit, en étant extrêmement modeste, je dirais que l'art dialectique de bien savoir pour bien vivre, c'est le fait de s'interroger sur la signification de ce qu'on sait pour savoir comment, dans la réalité, on peut faire en sorte que ces savoirs nous aident à mieux vivre et à nous orienter. Mmh. Voilà. Donc ce n'est pas simplement un enseignant, ce n'est pas simplement quelqu'un qui déroule des connaissances, mais c'est quelqu'un qui les met en situation, pour reprendre ces expressions.
C'est un grand bonheur d'être enseignant.
Alors pour moi, c'est un grand bonheur, c'est un grand bonheur, c'est un très grand bonheur, c'est un des plus grands bonheurs qui existent au monde. Je dirais même que, indépendamment de la structure scolaire et scolastique de l'académie telle qu'elle est aujourd'hui institutionnalisée, c'est un rapport anthropologique que l'être humain entretient avec d'autres êtres humains pour à la fois rencontrer l'histoire dans la transmission, rencontrer l'autre dans la subjectivité spécifique que sont les étudiantes et les étudiants, et en même temps faire l'exercice extrêmement rigoureux, c'est le côté scientifique de ma discipline en tout cas, de présenter des œuvres difficiles pour qu'un public se les approprie et les transmettre un peu plus loin. Mais puisque vous me posez cette question, je dirais que ce qui est le plus difficile aujourd'hui, et c'est l'actualité me donne raison, c'est d'avoir à lutter contre des institutions et des personnes dans l'institution qui vous empêchent de travailler.
C'est pour ça que c'était important, parce que quand je me suis attardée à cette, ou arrêtée même à ça, de bien savoir pour vivre bien, c'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, le monde, c'est une autre question que je vous poserai un peu plus tard, mais justement, a oublié les choses, ne les sait pas, et du coup, vit mal parce que... je pensais, j'ai eu il n'y a pas longtemps un débat avec Michel Miaille sur la laïcité, et Michel nous expliquait vraiment comment y avait des faits, quoi, que ce n'était pas la peine d'en rajouter, d'en inventer, et que ramenons-nous aux faits, et on vivra bien, quoi, on sera serein.
Le grand problème que vous soulevez, c'est que justement, on va le poser philosophiquement, c'est pourquoi face à la vérité, y a-t-il des dénis de vérité ? Pourquoi face à la justice, y a-t-il des dénis de justice ? Autrement dit, pourquoi est-ce que, pour reprendre la formulation de Rousseau, pourquoi est-ce que je vois le bien, je connais le bien, je sais le bien, mais je fais le mal, que pourtant je ne veux pas ? C'est toute la question du rapport à soi, la question de l'inconscient aussi, des déterminations. Mais disons, d'une certaine manière, que les résistances, qu'on appelait auparavant le mal, ou ce qu'on a appelé après le négatif, ou les obstructions, ou l'aliénation, ça prend des noms. Hein. Aujourd'hui, ça prendrait le nom du déni. Hein. On est dans le déni. Et même, je t'utiliserai un terme fort, que la psychanalyse freudienne et freudo-lacanienne a repris, la forclusion. C'est-à-dire le fait de s'interdire même la possibilité de réfléchir sur ce problème que je viens de soulever, c'est-à-dire la question de la contradiction entre ce qu'on veut, ce qu'on sait et ce qu'on fait. Bien, je dirais aujourd'hui même que ça se manifeste de manière extrêmement patente sous la forme suivante. Il suffit de déclarer une chose pour croire qu'on l'a faite. Par exemple, de dire « Eh bien, nous luttons contre le harcèlement » pour croire que c'est déjà fait. Voilà. Je prends cet exemple-là, mais pour dire « Nous avons... » Et donc, les faits dont vous parlez, il faut faire attention. Parce que les faits, ça peut être interprété dans deux sens. On a les faits qu'on établit, ce qu'on appelle une expérience en science, et puis les faits comme étant la facticité, c'est-à-dire le pur immédiat, le pur donné. On constate comme ça le sens commun de tous les jours. Or, j'ai l'impression aujourd'hui que les experts, les spécialistes, décrivent des faits de facticité plus que des faits d'expérience. Mmh. Et donc, il leur suffit simplement de décrire la réalité pour croire qu'ils l'ont analysée.
C'est pour ça que là, je voulais vous faire un peu parler des voyages, mais en définitive, me vient tout de suite l'idée de continuer sur l'enfance. Puisque, bon, vous dites que vos seuls interlocuteurs sérieux sont les enfants. Et justement, c'est important parce que c'est eux que vous formez à la réflexion. C'est eux. C'est peut-être aussi, on ne s'éloigne pas tant du bonheur d'être enseignant et d'enseigner, puisque, les enfants. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Socrate est amoureux, qui est aussi pour les enfants, pour les adolescents, même grands adolescents, parce que je pense qu'en tant qu'adulte, on peut tout à fait lire ce livre. C'est ça aussi, c'est de rester dans l'enseignement, de fournir aux enfants, à la jeunesse, les armes pour se construire et penser individuellement. C'est important pour
vous. Tout à fait. Je viens de faire paraître un ouvrage l'illustratrice et un de mes amis, Foucault, illustrait, qui illustre qui amorce une nouvelle série aux éditions Champs Social, justement parce que ce rapport à l'enfance me semble intéressant. Il me semble intéressant pour plusieurs choses. Premièrement, parce que l'enfance, ce n'est pas l'enfant. C'est-à-dire que nous gardons toujours l'enfance en nous, comme le dit la chanson de Barbara. L'enfance est toujours en nous, elle travaille en nous, dans la joie ou la tristesse, dans le chagrin ou la pitié, pour faire allusion à Ophuls, dans la culpabilité ou dans la réjouissance. Et on peut dire que toute grande œuvre d'art fait référence à l'enfance. Vous prenez La recherche du temps perdu, ça commence par Longtemps, je me suis couché de bonheur. Voilà, vous prenez Cohen, Belle du Seigneur, vous prenez Romain Gary, c'est son discours
d'ailleurs, au Seigneur. Proust, je ne sais pas, mais Gary et Cohen, les rapports avec la mère, ils sont costauds aussi.
Bien sûr. quand je dis chagrin ou bonheur, ça peut être... Il y a des mères indignes. Hein. Je pense à un philosophe comme Schopenhauer, qui a eu une mère extrêmement difficile. Et donc, pour revenir
à
l'enfance, bien sûr, l'enfance, c'est le lieu de la constitution énigmatique du monde. Parce que dans l'enfance, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de dogme. Il y a ce qu'on appelle en philosophie un transcendantal. Peut-être même que le seul transcendantal qui existe en philosophie, c'est peut-être un de mes apports, c'est l'enfance, comme catégorie anthropologique. J'ai écrit beaucoup sur cela. Dans la revue Sens Dessous, j'ai écrit un article sur « Faut-il philosopher avec les enfants ?» etc. Ça peut apparaître comme paradoxe parce que je l'ai beaucoup fait. Donc l'enfance, c'est ce moment où l'on constitue un champ de possibilités, un champ des possibles, et dans lequel vont s'inscrire éthiquement les existences de chacun de nous. Mmh. Et cette enfance, elle peut être bouleversée, travaillée, comme dans les romans de Charles Juliette. Elle peut être heureuse, elle peut être malheureuse. L'enfant ne peut pas savoir a priori, puisqu'il n'a pas de critères de détermination, même s'il le dit toujours sous la forme de la demande, parce que l'amour, justement, est un savoir qui demande à être approfondi. L'enfance, c'est ce moment anthropologique où l'humanité s'ouvre à son altérité fondamentale. Donc, c'est la chance de tous les possibles pour nous. C'est pour ça que l'éducation me semble fondamentale, autant que l'instruction, et qu'on peut mesurer le degré de civilisation d'une société et le degré de culture d'un État à l'attention qu'il donne au processus éducatif.
Et pour vous, Salim Mokadem, on a parlé de la plus belle rencontre, c'est celle du sourire de votre mère, on a parlé de l'importance de l'enfance, on a parlé aussi que l'enfance construisait peut-être l'enseignant que vous êtes devenu après. Vous en avez encore un souvenir très, très fort, très prégnant de votre enfance ?
Elle est tout le temps là. Mmh. Elle est en permanence.
C'est beau. c'est bien. Non, c'est vrai, c'est bien. On va partir de l'enfance, mais pas tellement. Parce que, en allant chercher des informations sur vous, on voit que vous avez beaucoup voyagé en Afrique, en Asie. Et là, je voulais vous ramener à une phrase de Luc Ferry qui disait que les voyages devraient être pratiquement obligatoires chez les jeunes. Mmh. C'est-à-dire que, on dit les voyages forment la jeunesse, mais ce n'était pas ça qu'il disait. C'était ouvre la jeunesse, ouvre l'esprit, les rencontres. On reviendra jamais sur les bienfaits du parcours universaire à l'étranger, comme ça s'appelle
Erasmus,
etc. Toutes ces expériences-là, tous les élèves, les jeunes qui en reviennent formidables. On a même fait des films formidables de Cédric Lapiche. Vous êtes aussi convaincu de ça, que le voyage
sûr,
est une...
Bien sûr, bon, on est à la radio, on a des auditrices et des auditeurs. Si j'étais...
Si vous étiez...
Si j'étais ministre de l'Éducation nationale...
C'est un sujet, après je vous demande des choses.
Si j'étais... Je rendrais obligatoire l'enseignement à l'étranger, aussi bien pour les enseignantes et les enseignants que pour les élèves, collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, étudiantes, étudiantes. À moyen constant, nous pouvons le faire dans l'Union européenne, par des échanges de services. Donc ça ne coûterait aucun argent, ça ne serait pas budgétisé, il n'y aurait pas accroissement des impôts, etc. Pour quelles raisons ? La première des raisons, Luc Ferry est philosophe en ce sens, c'est que le dépaysement, que ça soit forcé par l'exil ou voulu, produit toujours une décentration et une remise en question de ce qu'on croit être vrai. Comme disait Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà, voulant dire par là qu'on est prisonnier des préjugés de son enfance, de sa culture, de sa langue, et qu'il est bon d'aller confronter l'universel que l'on porte avec l'universel de l'autre. et de faire d'un universel abstrait, abstrait veut dire séparé, un universel concret, c'est-à-dire réuni à un autre universel pour non pas l'opposer, le dénier ou faire une lutte concurrentielle, mais dans un dialogue amoureux, produire une concrétion, un universel concret qui est fait de toutes les richesses et de toutes les diversités culturelles, linguistiques, artistiques qui existent sur Terre, et notamment au niveau des langues. Mmh. Et la langue est très importante, puisque la langue nous permet d'avoir accès à soi, au monde et à l'autre au sens large. Et puis, deuxièmement, pour les enseignants, ça, d'abord, premièrement, ça donnerait à leur métier une dimension d'enchantement dont ils ont souvent besoin, du fait de la répétition des tâches, parce que c'est un métier, bien sûr. Mais c'est aussi, comme tous les métiers, quelque chose qui demande une certaine forme de répétition, une certaine forme de travail.
D'année en année, c'est un recommencement.
Absolument.
Ouais.
Et donc, ça permettrait d'avoir des publics différents, d'homogénéiser, et de rencontrer aussi des langues, des collègues, et d'échanger sur les pratiques pédagogiques, et de les rendre, si vous voulez, beaucoup plus adaptées aux réalités du monde d'aujourd'hui, qui va très très vite, puisqu'on a une société civile qui est branchée en permanence sur les réseaux sociaux et sur la globalisation, puisqu'on a des technologies qui nous permettent aujourd'hui de travailler en présentiel ou en distanciel, et puisque nous avons fondamentalement un défi, qui est celui posé par l'intelligence artificielle et la numérisation, par les algorithmes, à savoir préserver l'humain ou inventer un humain qui ne soit pas simplement qu'un montage robotique de tâches plus ou moins complexes pour des rendements qui fait qu'il devient à moyen terme un instrument, donc aliéné à une logique du profit ou toute autre logique. Donc il y a beaucoup d'intérêt au voyage, et puis d'une certaine manière, le voyage, c'est la transformation. La vie est un voyage. Comme vous me disiez tout à l'heure, l'enfant, si elle est en moi, etc. Oui, elle m'habite toujours, parce que c'est par cette espèce d'énigme qu'on voit dans les films de Fellini, qu'on voit dans toutes les grandes œuvres d'art, chez Bonnard, chez Matisse. Le regard de l'enfant est un regard qui est un regard de désir et un regard de demande, un regard d'ouverture. Donc qui appelle, d'une certaine manière, à être un accomplissement. Et dans le voyage, il y a cette tension dynamique de la vie qui nous rend attentifs, lucides et ouverts aux singularités du réel. Parce qu'il y a un dépaysement, parce qu'on change Son territoire confortable, son moi, son ego, pour s'ouvrir et ainsi inventer des nouvelles possibilités qui sont dans son corps, dans ses perceptions, dans son intelligence, dans sa langue. Et ceci ne peut se faire que par le contact de l'autre.
Bien sûr. Et c'est amusant, parce que vous avez croisé en arrivant Arlette Domo, que j'interviewais sur l'Algérie. Et elle m'a dit quelque chose d'incroyable. Elle m'a dit, si j'étais restée, parce qu'elle est arrivée en France en 54. Donc elle a vécu les événements de France. Et elle dit, si j'étais restée là-bas, je serais rentrée à l'OAS. Or maintenant, si vous entendez, enfin, j'espère que, si vous lui avez dit, j'écouterai l'émission. Au contraire, maintenant, elle se sent 100% algérienne. Et elle a compris le fait d'être loin, de ne pas être dedans. Là, elle lui a donné une distance et un regard différent.
Être amoureux de son pays. Et là, on peut mettre, il faudrait analyser le pronom possessif, etc. Être amoureux de son pays, ce n'est pas avoir une identité imaginaire sur son pays. C'est avoir une rencontre concrète avec lui. Et il faut habiter la langue française comme si on était étranger dans la langue française. C'est ce que dit Deleuze, d'ailleurs. Il dit, les grands écrivains écrivent toujours dans une langue qui nous font parler, la langue maternelle, comme si c'était une langue étrangère. Et il est évident que, bon, il y a des mouvements qui sont assez proches de l'OS aujourd'hui en France et qui se disent patriotiques, mais il n'y a pas plus grand ennemi de la France, comme le disait Jean Ferrat, que ceux qui oublient que la France, c'est Robespierre, c'est les congés payés, c'est la République.
C'est les grandes luttes sociales, oui. Eh bien, ça, vous nous amenez directement là où on veut aller. Si, quand je vous ai demandé des titres musicaux, je n'ai pas été très claire. Et il y avait un titre musical à choisir. Mais alors, d'ici, vous m'avez envoyé une liste. Et liste qui est parlante. Alors, enfin, en tout cas, à moi. Bon, on est quasiment de la même année. Je suis de 59, vous êtes 60, hein, Salim. Mais donc, j'ai choisi Il voyage en solitaire, puisque nous parlons voyage. Eh bien, nous allons voyager en solitaire. Et puis après, je vous demanderai de nous dire pourquoi ces titres vous parlent particulièrement. On écoute Gérard Manset.
Thank you. il voyage en solitaire. Nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires. Pendant des journées entières, il chante la terre. Mais il est seul un jour. L'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté du vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Et voilà le miracle en somme. C'est lorsque sa chanson est bonne. Car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante.
Vous êtes toujours sur Radio FM+, dans une belle rencontre que je vous propose aujourd'hui avec Salim Mokadem. Salim, donc j'aimerais qu'on revienne, et excusez-moi, avec Yann à la technique que je n'ai pas signalé dans le précédent enregistrement. Donc c'est Yann qui aujourd'hui s'occupe de nous. Musique, voilà, on parlait du choix que vous avez fait. Donc Manset, on comprend. Lavilliers, il est très beau ce texte d'ailleurs.
Il est magnifique.
Ouais. Magnifique. Ouais.
Il a bonifié Lavilliers,
oui,
avec
exactement.
Le temps.
Exactement. Ouais, moi, je suis fan depuis la première heure quand même. Hein, mais
moi, j'ai connu Lavilliers, pour tout vous dire, dans une salle de musculation. Je ne fréquente pas habituellement les salles de musculation, mais il devait jouer à Auxerre, une ville de Bourgogne, où je suis né. Et avant le concert, il allait dans cette salle de musculation qui était à côté de du lycée où j'étais. Et nous avions discuté.
Il était déjà un peu connu ?
Il était déjà un peu connu. Il passait dans les maisons de la culture, il faut le savoir,
oui,
pour vous
indiquer. Qui n'existe plus, les MJC. Ouais.
Voilà, qui était fondé par Malraux pour répondre au Conseil national de la résistance, qui avait décidé que les artistes seraient subventionnés à raison de quoi il devait un certain nombre d'heures pour les maisons des jeunes et de la culture. Ce qui fait que tous les petites Françaises et les petits Français ont pu avoir accès à Barbara, Lavilliers, etc., de grands artistes, pour des sommes modiques. C'était moins d'un euro. Hein, c'était 3 francs à l'époque, hein, moins d'un euro. Donc il y avait une politique culturelle dont on est bien loin aujourd'hui.
Oui, oui, non, mais il y avait vraiment... Je peux en témoigner, puisque ma mère était chanteuse et elle a travaillé pendant des années comme ça dans les maisons, notamment à Grenoble, qui est la plus grosse de France, hein, qui avait 20 000 mètres carrés de plateau. Oui. Et Lavilliers, moi aussi, je l'ai connu pendant le Festival d'Avignon, au premier étage d'un café qui était Place Py, et on était à peu près 5 dans la salle. Et pendant l'été, il a sorti les Barbares, je crois, enfin le disque noir, là, parce qu'avant, il y avait eu La Grande Marée, et quand il a sorti ça, ça a explosé, c'est devenu une vedette incroyable. Mais je trouve que oui, il a ses derniers propos, ses dernières chansons, il y a vraiment une belle humanité chez Lavilliers. Après John Coltrane, amateur de jazz, Salim ?
Grand amateur de jazz. Plus que ça, je vais même vous dire ce que c'est pour moi le jazz. C'est la musique classique contemporaine, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je rêve de faire un cours sur le jazz. D'abord, la première raison, c'est que c'est un art tout à fait étonnant, qui était fait avec des instruments de musique qui viennent de la guerre de sécession.
Bien sûr.
Et qui a inventé un instrument qui n'existait pas auparavant, la batterie. La batterie, elle est faite des cymbales militaires, du tambour militaire, mais qui, rapprochés, mis bout à bout, a donné la batterie. Avec un instrument qui, de rythmique, est passé à mélodique, le solo de jazz. Le troisième point, c'est qu'il y a une inventivité mélodique et harmonique extraordinaire. Qu'on pense à l'art modal de Miles Davis ou bien au bebop, etc. Et qui se greffe sur toutes les musiques. Un joueur de flamenco peut jouer avec un musicien de jazz. Un joueur de tabla indien peut jouer avec un musicien de jazz. Un musicien classique ne peut pas, parce que la musique, elle est prise dans des grilles de lecture.
Solfège,
voilà. Mais qui vient de... On aurait peut-être le temps d'en parler dans une autre émission, mais qui vient du fait que la musique au XIXe siècle a été mise dans des conservatoires. Oui, qui ont codifié la musique, parce que quand on prend la correspondance de Beethoven, il improvisait beaucoup. Et Liszt aussi, quand il était... Voilà.
Va se faire quelques émissions thématiques, vous et moi, ça va
Et le jazz, en même temps, alors il y a cette écrite, il y a la reprise de standards, qui sont des petites chansons au départ, des petites chansons équivalentes au clair de la lune, etc., des comptines, mais qui sont modulées par des musiciens. Il faudrait que je vous explique ça en détail, mais on a une mélodie, par exemple, qui est reprise, ce qu'on appelle le thème, mais qui après, il y a des variations, il y a un pont, mais on peut décaler la mélodie. Si on décale une note de la mélodie, par exemple, si on met un dièse ou un mineur, les autres musiciens vont suivre. Et on a, si vous voulez, une sorte d'amitié musicale de ce qu'on appelle l'improvisation. Hein. Voilà ma définition de l'improvisation, l'amitié musicale, qui ne s'improvise pas et qui nécessite une grande technique, une virtuosité où il n'y a pas le droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas rater une note en public. Et puis, il y a derrière un hymne fabuleux à la vie, à l'amour, à l'émancipation, qui est représenté par la musique de Sonny Rollins et Coltrane, qui dans ses derniers disques intitulés Love Supreme fait un appel spirituel à la liberté, au chant, dans une puissance de jeu magnifique, des couleurs harmoniques expressives extraordinaires. Alors pour toutes ces raisons, bien sûr, j'aime.
On va faire une émission que sur le jazz. Et puis alors une dont les premières notes, ta 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 ta, voilà, tout le monde a reconnu ma France de Ferrat. Moi, ça me fout le frisson les 3 premières notes, quoi. Et la voix de Ferrat, le bonheur de chanter de Ferrat. Ma France, c'est aussi un texte, musique, tout qui vous...
Qui me touche beaucoup, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la France, ce n'est pas la France des partis politiques, c'est la France des poètes, ne l'oublions jamais, des écrivains, Victor Hugo, on a parlé de Proust. C'est la France qui, en 1789, fait citoyen d'honneur ceux qui sont pour la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. C'est donc aussi bien Heinrich Heine, c'est la France de Georges Sand, c'est cette France-là, c'est pas une France exclusive ou qui produit de l'exclusion, ou une France appropriative ou une France imaginaire. C'est certainement pas la France de certains qui pense qu'on ne peut pas s'appeler Fatima et être française, mais qui portent des noms d'arbres dont on ignore et des prénoms qui viennent des vikings et dont on ne sait absolument pas.
Bah derrière, le dernier texte que vous avez choisi, et vous me l'avez proposé par Feu Chatterton d'ailleurs, c'est l'affiche rouge. Alors là, les prénoms, ils ne sont pas français, et pourtant,
tout à fait.
Dieu sait qu'ils sont morts pour la France.
Ils se sont battus pour la France, ils se sont battus pour une certaine idée de la France, ils se sont battus pour une France qui est qu'il faut promouvoir, celle qui a produit l'universalité inclusive, les droits de l'homme, un certain système social, celle de la République, et celle qui est actuellement mise à mal par ceux qui pensent qu'il y a des élites qui savent mieux que les autres ce qu'il faut pour le peuple, celle qui fait la séparation entre justement savoir et peuple, celle qui confond le populaire avec le pop, et qui confond le peuple avec le people. Cette France-là, cette France du spectacle, cette France versaillaise, au plus mauvais sens du terme, c'est-à-dire non pas de l'État...
C'est ceux dont on dit que c'est Monsieur Thiers qu'on assassine.
Exactement, voilà, pour reprendre Ferrat. C'est la France de la résistance, c'est pas celle de la collaboration. Ouais. La France qui porte les droits de l'homme, c'est pas celle de Vichy, et celle qui apporte ses lumières et sa langue dans le monde pour pouvoir émanciper et rentrer dans cette universalité concrète dont je parlais tantôt, ce n'est pas celle qu'on nous véhicule dans les médias et qui, de manière méprisante, fait outrage au désir de bonheur des populations.
Salim, évidemment qu'il y a une foule de sujets qu'on aimerait aborder. Je voulais parler de l'art, je voulais parler aussi du fait que vous êtes engagé dans de nombreuses associations, donc l'important d'être un homme engagé. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu justement sur les sujets qui peuvent en ce moment vous faire réagir. Enfin, je pense par exemple au retour de Trump, hein, puisqu'on parlait de ça, on n'est pas très loin de ce qu'on vient de voir, ou l'affaire Depardieu, le traitement de l'affaire Delon, ce qui vient de se passer avec la ministre de l'Éducation qui a été, à la rigueur, elle peut mettre ses mots où elle veut. Hein. Après, non, évidemment, Stanislas, et pour avoir vécu pas très loin, c'est pas n'importe quelle école privée non plus. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, quel regard de philosophe, d'homme engagé,
je vais vous lire tout simplement.
Ou de Dati, hein, on parlait culture, de Dati à la culture.
Je pense que l'entre-soi est incestueux, autant qu'incestueux. Et que l'ENA a vécu. Et la promotion Senghor, elle est aussi bien pour moi représentative d'une France qui n'existe plus, mais qui tarde à partir. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, parce que vous voyez bien qu'on nous présente des jeunes mignons comme ministres, mais que l'âge n'y fait rien à l'affaire, comme dit la chanson. Et qu'il y a un mépris. Je veux même pas penser qu'il pense mal, vous voyez. Je pense qu'il y a une méconnaissance, une ignorance, un manque d'instruction et d'élégance qui frise le délire. Mmh. Et je pèse mes mots. Quand Madame la ministre dit... il faut quand même remettre les choses... Son enfant était... Et à l'époque, l'école maternelle n'était pas obligatoire. C'est Jean-Michel Blanquer qui a rendu l'école obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. 7 mois en grande section de maternelle. 7 mois en grande section de maternelle. Et je suis professeur et formateur dans une faculté d'éducation. Donc je sais ce que c'est qu'une école maternelle et ce que c'est que... Et dire... je l'ai mis dans un autre établissement parce que... Pas se raconter l'histoire. Enfin, elle l'a mise dans un autre établissement parce que cet établissement est un établissement de réseau, de lobbying.
Bien sûr.
Donc c'était pour rentrer dans une certaine classe sociale. Qu'elle mette son enfant dans le privé, dans le public.
Ça la regarde.
D'autant plus que... Non, ça ne la regarde pas. Ah. D'autant plus que cet établissement est sous contrat en même temps avec l'État. Vous voyez, donc il n'y a aucune, là-dessus aucune ambiguïté. À partir du moment où l'État... On peut dire comme Victor Hugo, l'argent du public au public et l'argent du privé au privé. On peut très bien revenir là-dessus, sur des fondements politiques et philosophiques. Mais puisqu'il y a un accord de Stanislas avec l'État, bon, pourquoi pas? Mais pourquoi rajouter cette pointe presque inconsciente? Les professeurs étaient absents.
Parce qu'elle est complètement déconnectée de la...
Alors moi je pense que c'est plus grave que ça.
Ah oui.
C'est plus grave que ça. Il y a non seulement les déconnexions, mais il y a cette idée qu'il ne faut pas se mélanger tout de même. Et qu'il y a des parcours obligés. Je connais beaucoup d'énarques. Hein, et je connais beaucoup d'énarques de la promotion Senghor. Et j'ai eu des fonctions dans ma vie qui m'ont fait côtoyer les grands de ce monde. Avec lesquels je suis en rapport.
On y reviendra avec le président du Niger. Voilà. Et voilà.
C'est pour vous dire que là, il y a plusieurs choses. Premièrement, méconnaissance du système scolaire. Deuxièmement, manque de solidarité dans l'école où elle a mis son enfant en maternelle. Donc, quand on sait que dans la maternelle, les parents rentrent dans la salle de classe pour justement faire la continuité affective et symbolique avec l'enseignant afin que la sécurisation affective produise chez l'enfant une inclusion familiale, d'où les objets transitionnels, pour parler comme Winnicott, qu'on introduit, les doudous, etc. C'est montrer véritablement une méconnaissance de ce que c'est que l'enfance. Vous voyez, et puis une violence de propos. Quand on est ministre, je veux dire, la fonction vous porte. J'imagine que demain, le président de la République me dit « Monsieur Salim Mokadem, j'ai entendu votre émission à la radio, je te voudrais à côté de moi, etc. » J'imagine que la fonction transforme un individu.
Bien sûr.
Là, la fonction n'a fait que renforcer l'individu dans ce qu'il est, c'est-à-dire des appartenances élitistes, conservatistes, avec cette idée encore qu'on peut encore plus progresser que l'enfant, eh ben, il aura la même carrière. C'est pour ça que je disais incestueux et incestueur.
Mais je le comprends, parce que moi j'ai eu une fille qui était à Messe de Tess et qui a eu... enfin, Jules Guesde maintenant. Disons le mot de Jules Guesde, le nom de Jules Guesde, et qui a fait le parcours Sciences Po. Et donc qui a été à rue Saint-Guillaume à Paris. Et je peux vous promettre que les 20% d'élèves imposés par Richard Decoin à Sciences Po ne sont jamais absorbés, ne sont jamais accueillis par l'élite qui a passé le cursus normal, comme un autre. Ça, c'est des sous-élèves. Il faut se battre deux fois plus pour être accepté à Sciences Po. On lui a dit quand même, tu as pris la place de ma sœur.
Oui. C'est un milieu que je connais bien. Je veux dire, je fais toutes mes études à Paris. C'est pas le fait de dire aux lycéens, vous allez rentrer dans un établissement d'excellence, mais c'est après, c'est se loger. C'est aller au même théâtre, au même cinéma et au même opéra que vos professeurs, c'est les vêtements, c'est etc., etc. Il y a tout un ensemble qui a bien été analysé par les sociologues de la reproduction, que ce soit Bourdieu, Dubé, ouais, Passeron, même Pinson-Charlot aussi, etc. C'est-à-dire qu'il y a un environnement. Et c'est pour ça qu'elle a mis son enfant dans cet environnement-là. Parce qu'elle sait intuitivement qu'on n'apprend pas dans la salle de classe. On apprend dans la situation de classe. Et quand on parle de normal, l'école normale supérieure, ou quand on parle des classes préparatoires aux grandes écoles, ce ne sont pas les enseignants, ce n'est pas l'institution qui fait les bons élèves, c'est qu'ils viennent de toute la France. Et là, donc de cet entre-soi, cet incestueux dont je parle, c'est un incestueux ontologique et socio-professionnel, il produit cela, il produit des massacres. Parce que, disons-le, puisque nous parlons sous le regard de Ferrat...
Et d'Aragon, même, on a du beau monde derrière nous.
et d'une certaine France, de la France constitutionnelle, de la France démocratique, républicaine et sociale, disons-le. L'école a un enjeu tellement important, elle a tellement bien marché, elle marche tellement bien qu'il faut la casser et qu'il faut la privatiser. C'est ça l'enjeu. Aussi bien la santé, aussi bien la justice, etc. Il ne s'agit pas d'être opposant ou opposé. Ce n'est pas du tout ce que je suis. Moi, je ne suis pas du tout un gauchiste. Hein. Je veux dire, je ne suis pas du tout quelqu'un qui critique de l'extérieur. C'est parce que c'est un système qui marche bien, qu'il faudrait l'améliorer, qu'on met des gens qui ne le connaissent pas pour le diriger.
Et qui le cassent.
Ça s'appelle du sabotage. Ça s'appelle du sabotage.
C'est sur ces mots qu'on va se quitter, Salim. Je voulais qu'on parle de l'art, je voulais qu'on parle du rôle des intellectuels. Ben voilà, il va falloir qu'on se revoie.
Écoutez,
ça va être dur, hein, mais il va falloir qu'on se revoie.
Oui, je voudrais simplement vous dire aux auditrices et aux auditeurs que aujourd'hui, le fait de penser, le fait de savoir, d'apprendre, etc., puisque c'est normalement ce qu'on doit faire à l'école, d'exercer son jugement, c'est aussi ce qui nous permettra de peut-être d'échapper à une certaine confiscation de nos libertés.
Merci beaucoup, Salim Mokadem. à bientôt sur les ondes de Radio FM+. Merci à Yann qui était avec nous en technique. Et puis, on a plein de sujets à réaborder avec vous.
Merci. Merci à Radio FM+. Et
à bientôt. Ah oui, à très bientôt.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.